14h en temps universel, 15h à Paris, vous écoutez RFI. Nemo Ampis est là pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une de cette édition, la Cour pénale internationale qui émet des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et contre son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, le premier ministre israélien qui estime que la CPI est antisémite. Pour lui, c'est même un nouveau procès Dreyfus. Les craintes d'une escalade en Ukraine après les tirs de missiles longue portée par Kiev et la réponse ce matin de Moscou avec un tir de missile intercontinental. Une course à l'armement qui inquiète le reste du monde. Au Mexique, par exemple, la présidente propose de la remplacer par une course à la reforestation. Un projet qui pourrait intéresser les négociateurs de la COP29 climat à Bakou en Azerbaïdjan. Un nouveau texte a été proposé ce matin, mais personne ne semble se mettre d'accord sur les financements des pays les plus riches. Le groupe arabe dit qu'il refusera tout projet ciblant les énergies fossiles. Et puis en France, jamais autant de cocaïne n'avait été saisie que cette année par la police. Une année 2024 pas encore terminée. La Cour pénale internationale a donc émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, et contre Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la bande de Gaza, également visé par la CPI, le chef du Hamas palestinien. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour.
Et Pierre, les réactions se multiplient déjà.
Et oui, Nemo, d'abord celle du principal intéressé, Benjamin Netanyahou, qui estime que la CPI est antisémite. Le premier ministre israélien va jusqu'à comparer ses mandats d'arrêt à un nouveau procès Dreyfus et précise qu'il ne cédera pas à la pression tant que les objectifs d'Israël ne seront pas atteints. Autre réaction, cette fois du Hamas, qui voit dans ses mandats d'arrêt visant des dirigeants israéliens une étape importante vers la justice. Les juges de la CPI considèrent qu'il y a des raisons de penser que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, ancien ministre de la Défense, portent la responsabilité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment en ayant volontairement et en connaissance de cause privé la population civile de Gaza de nourriture, d'eau, de médicaments et d'électricité. Le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, présumé mort, fait lui aussi l'objet d'un mandat pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La Cour pénale internationale, ne disposant pas de sa propre police, c'est sur ses 123 pays membres qu'elle compte pour arrêter et lui remettre les suspects. À noter Nemo qu'Israël, tout comme son allié américain, ne reconnaissent pas cette juridiction.
Merci Pierre-Olivier du service international de RFI. Sur le front d'une autre guerre en Ukraine, la Russie a déjà riposté aux tirs de missiles longue portée sur son territoire. Ce matin, l'armée de Vladimir Poutine a tiré pour la première fois depuis le début du conflit un missile intercontinental, une arme qui peut être dotée d'une ogive nucléaire. Ce n'était pas le cas cette fois-ci, selon Kiev, même si le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure qu'une expertise est en cours sur ce tir. Le chef de l'État qui rajoute que la Russie, qu'il qualifie au passage de voisin fou, utilise l'Ukraine comme un terrain d'essai. Un conflit qui fait couler beaucoup d'encre à l'étranger, en Amérique latine notamment, où depuis le feu vert de Washington pour l'utilisation de missiles longue portée, plusieurs pays craignent que la guerre ne monte d'un cran. Hier, mercredi, le Chili, le Brésil, la Colombie et le Mexique ont demandé d'une seule voix d'éviter une course à l'armement. Un sujet qui tient particulièrement à cœur à la nouvelle présidente mexicaine. En début de semaine déjà, Claudia Sheinbaum avait proposé aux pays du G20 de remplacer cette course à l'armement par une course à la reforestation. À Mexico, la correspondance de Marine Le Beg.
Prendre 1% du budget consacré à l'armement et le dédier à la reforestation. Claudia Sheinbaum, nouvelle présidente du Mexique et ancienne membre du GIEC, a soumis ses calculs aux dirigeants du G20.
Cela revient à verser 24 milliards de dollars chaque année dans un fonds de soutien destiné à plus de 6 millions de paysans qui replanteraient 15 millions d'hectares d'arbres, soit l'équivalent de 4 fois la superficie du Danemark ou bien celle du Belize, du Guatemala et du Salvador réunis.
Le plus grand programme de reforestation de l'histoire, selon les mots de la présidente mexicaine. Une proposition qui ne vient pas de nulle part. Ce programme existe en fait déjà à l'échelle du Mexique et de l'Amérique centrale, lancé en 2019 par Andrés Manuel López Obrador, président de l'époque et mentor de Claudia Sheinbaum. Son nom, Sembrando Vida, semer la vie.
L'idée, c'est de donner aux familles pauvres des zones rurales une aide financière et une formation technique pour leur apprendre à planter des arbres utiles pour leur bois, mais aussi des arbres fruitiers pour qu'ils soient cultivés dans l'objectif de se nourrir.
Depuis sa mise en place, 1 million d'hectares d'arbres auraient été replantés dans la région. Une lutte combinée contre la faim et la déforestation. Marine Le Beg, Mexico, RFI.
Et j'ajoute que l'armée russe a revendiqué ce matin la prise d'une petite localité près de Kourakové dans l'est de l'Ukraine, un secteur du front où les troupes russes réalisent des avancées depuis plusieurs mois. À Bakou, les discussions de la COP29 climat doivent normalement se refermer demain et au petit matin, la présidence azerbaïdjanaise a publié un texte d'accord provisoire de 10 pages, un projet qui ne présente plus que deux grandes visions de l'objectif de finance climat, celle du sud et celle du nord. Pour en débattre, Mukhtar Babayev, le président de la COP, a convoqué dans la foulée un kurultai, un terme local, l'équivalent d'un rassemblement pour unifier les points de vue des dirigeants. Dans la salle, les représentants de chaque pays ont pu prendre la parole et aucun d'entre eux ne s'est dit satisfait. Je vous propose d'écouter Diego Pacheco, négociateur bolivien qui représente les États les moins développés à cette conférence.
Ce n'est même plus une blague, c'est une offense aux demandes des pays en développement. Les pays développés doivent clairement fournir de l'argent aux pays en développement. Autrement, ce serait trahir le multilatéralisme. Les pays développés qui exploitent toujours plus de fossiles nous parlent ici de l'objectif de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est le summum de l'hypocrisie. Mais le temps de l'hypocrisie est révolu.
Mais face aux 1300 milliards de dollars réclamés, les pays développés demandent toujours à ce que les pays émergents comme la Chine participent au pot commun. Wopke Hoekstra, commissaire européen au climat et négociateur de l'Union européenne, n'est donc pas non plus content du texte.
Je ne vais pas édulcorer. Le texte que nous avons sous les yeux est déséquilibré, inutilisable et inacceptable. Sur la finance, l'Union européenne va continuer à montrer la voie et à faire plus. Mais face à l'ampleur des besoins, on atteindra l'objectif que si toutes les parties s'associent. Tous ceux qui peuvent contribuer doivent le faire. Puis-je, s'il vous plaît, Monsieur le Président, vous inviter à prendre les choses en main.
Il y a quelques minutes, sachez que l'Arabie Saoudite et le groupe des pays arabes ont annoncé qu'ils refuseraient tout texte ciblant les énergies fossiles. Déclaration d'Abdallah Taoufik, responsable saoudien qui représente le groupe arabe à l'ONU Climat. L'actualité en bref avec la nomination au Mali d'un nouveau Premier ministre, un militaire, le général Abdoulaye Maïga, en remplacement du civil Choguel Maïga, limogé hier après avoir été critique du régime ce week-end. Abdoulaye Maïga était jusqu'ici porte-parole du gouvernement. Il devra former un nouveau gouvernement puisque les ministres de Choguel Maïga ont également été remerciés hier soir par un décret présidentiel lu à la télévision nationale. 38 morts au Pakistan, dont des femmes et des enfants, dans un récent épisode de violence entre chiites et sunnites qui endeuille régulièrement le nord-ouest du pays. Un membre de l'administration locale d'une province frontalière de l'Afghanistan assure que 2 convois transportant des chiites ont été pris pour cible. Une dizaine d'assaillants auraient tiré à l'aveugle, précise cette même source. Et puis la fin de ce journal en France, où un nouveau record de saisie de drogue a déjà été battu cette année. Près de 45 tonnes de cocaïne ont été saisies sur les 10 premiers mois de cette année. C'est plus du double de la quantité saisie en 2023. Le nouveau directeur de la police nationale a dressé un état des lieux du trafic de drogue. C'était devant une commission du Sénat. Récit Marie Casadebé.
Un marché français en pleine expansion, avec une forte demande et une offre abondante. De cocaïne en Amérique latine, d'héroïne en Afghanistan, de résine de cannabis au Maroc et de drogue de synthèse en Europe. Voilà pour le tableau dressé par Louis Laugier, qui précise qu'en France, la hausse du trafic de cocaïne est particulièrement significative. Les saisies ont été multipliées par 5 en 10 ans pour atteindre près de 45 tonnes en 2024, soit le double de l'année dernière. Une hausse également liée à celle des opérations policières, selon le patron de la police française. Autre constat, le trafic de stupéfiants a tendance à toucher les grandes agglomérations comme les villes moyennes, à mobiliser en majorité des réseaux français mais aussi albanais et nigérians et à impliquer des trafiquants de plus en plus jeunes avec une banalisation du recours aux armes qui explique le nombre de victimes collatérales. Ce tableau tend à ressembler à celui de la majorité des pays développés, notamment en Europe où en 2024, la moitié des réseaux criminels les plus menaçants étaient impliqués dans le trafic de drogue.
Les précisions de Marie Casadebé du service France de RFI. Il est 15h10 ici à Paris.